terre des hommes. L'émission qui donne la parole aux étudiants étrangers, proposée par le service du recrutement international de l'Université catholique de l'Ouest.
Bonjour à tous, chers amis auditeurs de Radio Campus. Vous êtes à l'écoute de Terre des Hommes, notre huitième émission. Aujourd'hui, nous sommes en présence de...
Monsieur Claude Bafofoa, je viens de la République démocratique du Congo.
De Kinshasa, plus précisément. Nous nous retrouvons tout de suite après ce générique.
Terre des Hommes.
Alors, la RDC, Claude, c'est quand même un des plus grands pays d'Afrique.
Effectivement, il se trouve au centre de l'Afrique. Elle a 9 pays voisins. Et 2 capitales proches, c'est Brazzaville et Kinshasa.
C'est et ben alors, Brazzaville, 26 c'est provinces. Congo-Brazza. C'est pas Congo-Kinshasa.
Non, c'est Congo-Brazza.
Pour aller de l'un à l'autre, comment est-ce qu'on fait?
On traverse par des petits bateaux.
C'est un fleuve.
Un fleuve. C'est un fleuve qui a au moins 7 à 8 kilomètres.
De large,
oui, effectivement.
C'est Alors, raconte-moi, Claude, pourquoi est-ce que ce pays, qui démarre à l'est du Kivu, là-bas, quasiment pas loin du Rwanda, et se termine par un tout petit bras vers la côte atlantique, c'est quoi ce contour géographique? C'est dû à quoi, ça? Ça vient d'où?
Le bassin du fleuve Congo termine effectivement sa chute dans l'océan. Le petit pied qui part de Kinshasa vers l'océan a suivi juste le chemin du fleuve. D'accord. Donc, on ne pouvait pas abandonner le fleuve à moitié. Donc, il fallait le suivre jusqu'au bout.
D'accord.
Donc, c'est ce qui fait le petit pied.
Alors, du coup, quand on est à Kinshasa et qu'on lève la tête et qu'on regarde au-dessus du fleuve, on voit Brazza,
oui,
qui est la capitale du pays d'à côté,
oui,
Congo-Brazzaville. Et alors, vous parlez la même langue?
Nous parlons le Lingala.
D'accord.
C'est déjà quelque chose, nous parlons le français. Et d'accord, nous avons quand même beaucoup de choses en commun. Et parfois même dans les noms, on a presque les mêmes noms.
Donc, vous êtes cousins ou c'est quoi l'histoire?
Je ne comprends pas très bien, mais on est des voisins. Mais vous trouvez quand même des peuples qui se trouvent à la fois et au Congo, Kinshasa et au Congo-Brazzaville.
Mais il y a quand même un géant à côté d'un tout petit, parce que Congo-Brazzaville, c'est quoi? 2-3 millions d'habitants, je ne sais plus combien.
2, 3, 4 millions d'habitants, tandis que pour la République démocratique en entièreté, nous sommes autour de 80 millions d'habitants.
Donc c'est quand même colossal, vous êtes un énorme pays à côté d'un tout petit.
5 fois la France.
5 fois la France en superficie.
Oui.
Et plus d'habitants que nous aussi.
Oui, plus d'habitants. 80 millions, c'est pas peu. Hein.
Alors Claude, on a oublié de te présenter totalement. Tu es avocat à Kinshasa.
Effectivement, je suis avocat. Je suis membre du barreau de Kinshasa-Gombe, où je suis en train de prester. Et j'ai mon cabinet en pleine ville de Kinshasa, donc dans la ville urbaine de Kinshasa, tout près du grand boulevard qu'on appelle le boulevard du 30 juin, qui est la principale de Kinshasa.
Et 30 juin, c'est quelle date?
30 juin, c'est la date de l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo.
De quelle année?
1960, sûrement.
Voilà, très bien. Donc c'était important de le savoir.
Oui, oui, merci.
Et donc, en plus du fait que tu es avocat, tu es aussi représentant officiel de l'université, donc tu as rajouté ce travail en quelque sorte à ton cabinet, quoi.
En tout cas, je m'y attendais. Il y a 5 ans que je suis entré en contact avec le bureau international de recrutement, le bureau de recrutement international de l'Université catholique de l'Ouest, et j'ai accepté de travailler comme représentant officiel de l'UCO en RDC. Je ne me rendais pas compte que c'était mon deuxième métier. Au fait, qui cadre beaucoup avec mon premier métier, parce que du coup, j'accompagne les étudiants en conseil, en orientation et en décision. Et beaucoup de parents commencent à fréquenter mon cabinet. En fait, c'est mon deuxième métier que j'aime beaucoup et qui m'a permis aussi de faire agrandir le premier métier.
Ah, c'était excellent. Alors avant d'aller un peu plus loin sur ce que tu fais,
ouais,
parle-nous un peu du pays aujourd'hui. Il n'y a pas très longtemps, vous avez eu des élections. On a eu peur un peu quand même. Le monde entier craignait des choses. Hein. On ne savait pas trop ce qui allait se passer. Mais finalement, ça s'est bien passé. Quelle lecture tu ferais de l'évolution politique de ton pays, sans rentrer dans la politique partisane? Quelle lecture tu fais de l'évolution politique de ton pays aujourd'hui, compte tenu de toutes ces élections qui ont eu lieu, de l'évolution économique et mondiale? Comment tu considères aujourd'hui le Congo dans ce concert des nations-là?
Nous avons fait des grands efforts et ça a été très 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 étonnant de voir que celui qui était au pouvoir avant à accepter qu'il y ait passation pacifique du pouvoir. C'était très étonnant. On avait tous peur, même nous qui habitons Kinshasa, nous avions eu très 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 peur. Mais les choses se sont passées calmement et ça a apaisé tout. J'ai vu des militaires et des jeunes qui étaient presque, il y a quelques mois, qui étaient opposés, qui s'insultaient, qui se jetaient des pierres. Je les ai vus prendre des photos ensemble. Donc, il y a eu un changement et aujourd'hui, je sens la paix. Je sens vraiment la paix. La situation s'est apaisée et les choses commencent quand même à reprendre petit à petit.
Est-ce que tu nous dis que finalement, les jeunes en particulier sont en train d'intégrer complètement au niveau de leur société à eux que seule la paix construit au fond et que la violence ne résout rien? Ce que disait la semaine dernière Kadi pour la Côte d'Ivoire par exemple.
Effectivement, en tout cas, violence zéro, on sauve le pays.
C'est ça.
Parce que nous avons connu des années malheureuses vers les années 93, 80, et les années 90, je pense, où il y a eu trop de violence, on a été pillé les magasins, on a cassé des sociétés, et ça a vraiment mis le pays à genoux. Et aujourd'hui, s'il y a un problème sérieux d'emploi, c'est dû à toutes ces violences qu'il y avait eu avant. Et aujourd'hui comme aujourd'hui, on n'est pas prêt de revivre encore ces moments douloureux qui a plongé le pays dans un chaos, au point que ceux qui terminent le bac n'arrivent pas à trouver facilement de l'emploi. Ceux qui terminent l'université, ils tournent dans les rues sans avoir de l'emploi. Donc il faudrait que le pays puisse marcher sur des chemins de paix, sur des chemins de non-violence, pour que nous espérons que demain, après-demain, ça sera des temps meilleurs.
Est-ce que tu veux nous dire par là qu'en fond, les crises vécues les décennies passées, vous le payez encore aujourd'hui ?
On le paye. On le paye et on le sent. Je connais une société qui faisait importer des pièces de voiture et qui remontait les véhicules sur place en RDC. Et aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc tous les véhicules doivent venir par bateau, soit du Japon, soit de l'Europe, et ça coûte ce que ça coûte. Donc notre souhait, c'est qu'il n'y ait pas de violence, parce que la violence a beaucoup détruit. Et même beaucoup d'investisseurs sont partis,
c'est ça,
et ils ne sont jamais revenus parce qu'ils ont perdu beaucoup de choses.
Ils diront que j'ai toujours le même thème. L'histoire se répète donc j'utilise les mêmes termes. Tant pis pour ceux qui pensent que je bloque sur l'Afrique. Cette chanson c'est comme la France, frère, tu l'aimes ou tu la quittes. Les dilemmes de la street quand les frères se bim bim. Les renois crèvent à la suite pour des rêves de bling bling. Et forcément, je nique tous les colons du club qui voulaient me faire oublier tout lors qu'ils m'ont volé avec une carte gold. Noir est le code, certaines luttes nous terrassent. La négritude est une histoire de culture, pas une question de race. Et ça dérape quand l'espoir se meurt. Où est le devoir de mémoire si l'histoire souffre d'Alzheimer? Dans la clameur, pour mes gens, la terre est grande. Mais rien qu'on s'extermine à base de guerre éthique et guerre des gangs. Je guette les sangs quand la peur et le temps éclatent. C'est l'histoire d'un peuple au cœur de roi et au sang d'esclaves. Les intellos diront que j'ai toujours le même thème. Leur connerie est sévère donc j'utilise les mêmes termes. Je passe à l'offensive, je les laisse parler du mal. Africain jusqu'aux gencives, normal de broyer du noir. Renoir c'est bien beau d'avoir été pharaon. Mais le passé n'est qu'un caveau si le futur passe par la honte. N'oublie pas que le monde a fauché les poupées noires. Seule une balle dans la tête peut me causer un trou de mémoire. Mais peu importe le mal, je refuse la pitié. On n'a jamais été hâle dans l'union et l'amitié. Du coup les complexes continuent encore de s'empiler. Vous m'avez traité de nègre, monsieur l'agent, mais vous êtes antillais. Je calcule pas leurs commentaires par ici. Pendant que des familles entières mangent des galettes de terre en Haïti. J'écris en graffiti la bénédiction des âmes. Viens pas dire qu'on a subi la malédiction de charme.
Hey. Yo zali se kolala La moukana no yotala, denge mon yébimie.
Les médias vous diront que j'ai toujours le même thème. Ils changeront mes paroles sans reprendre les mêmes termes. Pour l'Afrique je gueule, mais parfois je me résigne. Un continent en forme de gun, c'est vraiment un mauvais signe. L'avenir se dessine, alors j'ai gardé la foi. Le silence devient un crime, alors j'ai gardé la voix. Le monde s'entretue dans la guerre de l'or noir. Le premier ennemi de l'homme noir reste l'homme noir. Le doute est normal, c'est dans ma culture. Depuis qu'on a voulu me faire croire que votre passé sera notre futur. Et comment notre histoire peut être corrigée quand on a les religions des gens qui nous ont colonisés. Récupérez vos Voltaire et vos Guevara. Mon histoire est écrite par Franz Fanon et par Sankara. On y arrivera malgré les différences et les enclaves. C'est l'histoire d'un peuple au cœur de roi et au sang d'esclaves.
La moukana no yotala, denge mon yébimie.
Terre des hommes.
Et toi, comme avocat, tu es aussi un homme d'expérience maintenant. Quel message tu voudrais dire aux jeunes? Enfin, c'est pas la fin de l'émission, évidemment, mais je veux dire, est-ce que les jeunes de ton pays, ils entendent ce que tu es en train de dire là? Parce que j'ai envie de dire, mais Claude, comment est-ce que tu le cries ça au pays? Comment est-ce que tu dis aux jeunes, mais les gars, vous voyez, seule la paix construit durablement un pays. Quel outil tu utilises pour que ce message soit entendu?
Le plus grand outil, c'est la parole. On ne peut pas. Donc, de temps en temps, j'ai eu à faire des petites émissions à la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Et je ne cesse de le dire que la paix, c'est... Parce que quand il y a la guerre, on ne sait pas aller à l'école. Quand il y a la guerre, on ne sait pas voyager. Quand il y a la guerre, on ne sait pas... Le téléphone est coupé.
On ne peut plus se soigner.
Donc, on ne peut plus se soigner. Alors, donc, ce ne sont pas des conditions qu'il faut pour que on puisse s'épanouir, qu'on puisse aller de l'avant. Donc, il y a un grand avantage de mettre tout son cœur dans la paix et de travailler pour qu'on aille de l'avant. Donc, pour le jeune, ils doivent chercher beaucoup plus ce qui est utile dans la vie, c'est la formation. Et après la formation, c'est le travail. Ils doivent constituer des familles qui sont stables, qui doivent rester unies et non pas des familles qui sont tout le temps séparées à cause de la guerre, à cause du bruit des bottes. Donc, il faudrait que les gens, tout le monde, même ceux qui sont dans des petites zones de troubles, qu'ils comprennent qu'ils doivent tout abandonner pour l'éducation, pour créer des familles stables et solides en vue de sauver le pays.
Mais alors, ce que tu dis, ça s'applique aussi à l'est du pays, à la frontière du Kivu, là-bas, où il y a quand même des tensions régulièrement. Est-ce que cette zone-là, qui est parfois décriée ou qualifiée de no man's land, où il y a des matériaux précieux, des minerais précieux que certaines grandes sociétés internationales exploitent sans même le contrôle du pays, comment est-ce que ça va se résoudre, ça aussi, finalement? Parce que c'est chez vous, là-bas.
Oh oui, c'est chez nous. On ne peut pas laisser ce pays divisé à cause des richesses. Il n'y a pas que l'est du pays qui a des richesses. Il y a le sud du pays qui a beaucoup de richesses. Il y a le centre qui a beaucoup de richesses. Nous voyons vers le centre, nous avons le diamant. Nous avons vers le sud, nous avons le cobalt. Ce sont des minéraux de qualité. Nous avons le cuivre qui sont très importants même dans la fabrication d'une cartouche, d'une balle qu'on utilise pour une arme.
Donc, ou les téléphones portables.
Nous avons le coltan à l'est du pays. Donc, au fait, c'est vrai, il y a ceux-là qui pratiquent un peu la politique de la guerre pour qu'il n'y ait pas de contrôle.
C'est ça.
Comme ça, ils peuvent prendre sans taxe certains minéraux et aller les vendre un peu plus cher ailleurs.
C'est du pillage.
C'est du pillage, effectivement. Mais ça ne va pas continuer comme ça. Il faudrait que ça soit réglementé. Il faudrait qu'il y ait du contrôle.
C'est ça.
Et ça, je pense qu'il y a des organismes sur le plan international qui sont en train de travailler pour qu'on décourage celui qui pille un pays pour se faire de l'argent. Et on y arrivera.
C'est ton cœur d'avocat qui parle ou c'est ton cœur d'amoureux de ce pays?
Ah, mais je suis très amoureux de mon pays. Je suis très amoureux. Et en tant qu'avocat, je ne peux que m'attacher à ce qui est juste et qui est très clair, quoi. Parce que quand on pille, ce n'est pas juste. Donc, je condamne cela.
C'est magnifique. Alors du coup, ben, maintenant, dans ton cabinet, non seulement tu reçois des gens, des clients à défendre, selon les différentes choses qu'ils te demandent, mais maintenant tu reçois aussi des parents.
Oui, je reçois beaucoup de parents.
Qui ont ce rêve, comme tu l'as dit tout à l'heure, de tout lâcher, parce que c'est un vrai choix. Là-bas, les salaires sont très petits par rapport à ici.
Effectivement.
Un professeur à Kinshasa gagne quoi, 300-400 dollars par mois.
En tout cas, en termes de salaire, il est bas. On trouve curieusement des primes qui sont au-delà du salaire.
D'accord.
C'est vraiment pas compréhensible.
Ça veut dire qu'envoyer un jeune Congolais de Kinshasa étudier en France, ça demande à ramener au pouvoir d'achat congolais, c'est une fortune.
C'est vraiment une fortune, c'est un problème, c'est un souci pour les parents. Donc j'ai essayé de comprendre comment les parents font le montage pour que l'enfant puisse quitter la République démocratique du Congo et venir vivre en Europe, spécialement en France.
Pour étudier,
effectivement. Et j'ai compris que ce sont des efforts colossaux. Et il y a des parents, au fait, qu'ils ne touchent plus au loyer, donc ils ont construit des immeubles, ils ne touchent plus au loyer. Il y a des parents qui entrent dans le commerce et qui essaient de fructifier suffisamment leurs moyens pour pouvoir soutenir un enfant. Et j'ai connu, parmi les enfants qui sont venus étudier à UCO, des parents qui ont vendu une maison.
Waouh.
Et ça m'avait beaucoup touché.
En vue de former le petit pour qu'il revienne au pays et qu'il ait une meilleure situation.
Effectivement, parce que déjà quand il vient, il a la chance d'abord d'avoir la culture française. Il a la chance de côtoyer beaucoup d'amis français ou même d'autres pays, parce que la France ne reçoit pas que le Congolais, il reçoit beaucoup. J'ai vu beaucoup de Japonais ici, beaucoup de Chinois. C'est très bien. Donc il y a une cosmopolite des gens que le petit rencontre, et aussi tout ce qu'il apprend le forme, et quand il rentre au pays, c'est un petit génie. Donc il sort un peu de l'ordinaire, il a des choses à dire, et s'il va encore dans nos villages, donc il est considéré comme le Mundele, c'est-à-dire le blanc.
C'est ça.
Donc il peut se mettre autour du feu et tout le monde vient autour de lui, on le regarde, il raconte des histoires et c'est formidable.
Donc le jeune, il a un master ou une licence qu'il a fait en France, il revient au pays, il est déjà comme un petit roi, quoi.
Un petit roi, donc il a tout ce qu'il a comme atout, quoi, comme connaissance. Il est apprécié, il est regardé autrement. On croit déjà, par le fait qu'il a eu cette connaissance, qu'il a réussi sa vie. Donc avant qu'il le mette en pratique ou qu'il entre dans un emploi, mais au moins le fait qu'il a fini ses études en Europe, en France, on croit qu'il a déjà réussi sa vie.
En tout cas, je me rappelle d'une jeune Congolaise qui voulait faire du droit, qui est venue ici en disant, vous savez, chez moi, le droit des femmes n'est pas toujours respecté et je veux devenir avocate et repartir dans mon pays pour défendre les femmes. Et tu vois, quand tu me dis que des familles vendent leur maison pour payer des études à leurs petits en France et pour qu'ils reviennent ensuite au pays, c'est nous ici qui travaillons à l'université. Ça nous touche parce que quelle responsabilité on a de les accueillir et de les accueillir bien. Ouais. Parce qu'ils mettent entre nos mains leur avenir.
Effectivement.
Et quelque part, un petit bout de l'avenir du pays.
Ouais.
Et toi, c'est ce que tu fais maintenant, Claude. Tu es content de ce travail de représentativité ou de représentation officielle de l'université? Comment tu articules les deux en quelques instants? Parce qu'on arrive à la fin de l'émission, malheureusement.
Je ne pouvais pas me rendre compte que c'est un beau travail. Je ne pouvais pas me rendre compte que je rends beaucoup un service qui est énorme aux familles. Et rassurer d'abord quelqu'un que ton dossier est arrivé à l'université, on va le traiter, et que quelques temps après, quelques semaines après, la personne a une réponse positive, c'est déjà une fête dans une famille.
Ouais,
et ça, je vous dis, je suis touché. Et quand un enfant arrive à avoir son visa, et j'ai reçu des vestes, j'ai reçu des costumes, j'ai reçu des souliers à titre de remerciement.
De cadeaux, quoi.
De cadeaux. Non, c'est formidable. C'est formidable. J'encourage. J'aime et je continuerai à aimer ce grand projet, cette partie de ma vie qui est un deuxième métier. Je m'accroche. Parce que même ici, il y a une fille qui est venue depuis 2016. Et quand elle a appris que je suis en Europe, en France, elle a tout fait pour me voir et m'a vu à Paris. Et elle m'a amené une très belle chemise. Wow. Pour dire non, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je n'en revenais pas.
C'est très beau. Je voudrais dire aussi aux auditeurs que Claude travaille aussi dans une association qui s'appelle le BAJPD, le Bureau d'aide d'assistance aux prisonniers démunis. Mmh. Et ce sont des prisonniers qui sont des personnes qui sont mises en prison, parfois pour un larcin mineur, c'est-à-dire du genre avoir volé quelque chose à l'étalage. Et en attendant d'être jugé, parfois on le tend, tu me coupes si je me trompe, on le tend même de mourir en prison avant même d'avoir été jugé pour quelque chose de très mineur. Mmh. Et tu t'y es engagé gratuitement à plaider pour ces gens auprès du juge. Mmh. Et donc ta vie se compose aujourd'hui de soutien juridique pour ces personnes, dans le cadre aussi de ton travail d'avocat, et maintenant d'accompagnement des familles. Mmh. Et tu dois avoir un cœur gros comme ça.
Oui, au fait, ma profession m'a appris à avoir un cœur gros. Hein. Ça, je suis vraiment très convaincu. Parce que travailler dans une prison comme la prison centrale de Makala, qu'on appelle, qui est une grande prison, qui attendait peut-être 1500 pensionnés, mais qui est à 12 000 ou à 15 000 personnes.
10 fois plus.
Oui, 10 fois plus, qui n'ont presque pas à manger, les procédures ne sont pas respectées. Et j'ai eu à rencontrer des personnes qui sont là parce que, effectivement, pour avoir volé un truc de 1 euro, bon, c'est le vol qu'on condamne. Et il a déjà fait 5 ans sans être jugé.
Wow.
Or, pour le vol simple, c'est déjà 5 ans. Et donc, il a épuisé sa peine sans être jugé. Et bien de fois, j'ai suivi la procédure, j'ai aidé la personne à pouvoir se présenter devant le juge. Et le juge qui le condamne à 5 ans et la personne quitte la prison parce qu'il a déjà épuisé ses 5 ans.
Ça aurait pu être évité si tout ça l'était anticipé.
Oui, si c'était anticipé, ça pouvait bien être évité. Et si on ne joue pas ce rôle-là, il peut encore ajouter 2 ans.
Et mourir.
Et mourir même dans la prison sans que personne ne s'occupe de lui. Donc voilà.
Claude, te remercions pour ce beau témoignage. Thibault, il aurait fallu avoir une heure avec lui. Hein. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut qu'on respecte un peu notre cadre. Merci de ce témoignage à cœur ouvert, j'ai envie de dire. Tu dis que les jeunes repartent au pays et peuvent développer davantage le pays. Mais nous, les Français, ici, vous nous apportez beaucoup. Tu ne te rends pas compte. Ce que vous nous apportez, vous, la culture africaine, vous nous réveillez, vous nous boostez, vous nous ramenez à l'essentiel de la relation humaine, de l'écoute, de l'empathie. Il y a tant à faire en Afrique. Et vous êtes là pour nous dire, mais les gars, vous avez tellement de chance en France, quoi. Mais ne l'oubliez pas, quoi. Ne l'oubliez pas. Donc, merci pour ce témoignage. On va tous faire le mieux pour être... Pour être citizen of the world, pour citoyen du monde,
merci.
Faire en sorte que la fraternité gagne. Claude, merci. On va terminer par une petite musique que tu as apportée sur la musique congolaise que Thibaut va nous concocter tout à l'heure. Chers amis, merci à tous. C'est la fin de cette 8e émission de Terre des Hommes. Salut à tous, bonne fin de journée. Bye.
Bye.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.